en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le grand privilège et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui pour ses auditeurs un remarquable spécialiste de la Grèce antique qui continue à se battre pour que l'on sauvegarde l'étude des langues anciennes, Madame Jacqueline de Romilly. Madame Jacqueline de Romilly, bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Vous êtes la première femme à avoir été élue au Collège de France, c'était en 1973 d'une part, et d'autre part, la première femme à être élue et reçue à l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, oui. En 1975. Vous avez aussi la particularité d'appartenir à deux académies, l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie française, puisque le 24 novembre 1988, vous avez été élu à l'Académie française au fauteuil d'André Roussin,
oui.
Le septième fauteuil. Et un fauteuil qui vous procure certains souvenirs. Pour le professeur, avez-vous dit au cours de votre discours de réception, pour le professeur, pour l'helléniste, l'honneur cependant est intimidant, aviez-vous dit devant l'assistance. Je ne le nie pas. Relire la liste de ceux qui m'ont précédé à ce septième fauteuil, auquel vous avez bien voulu m'appeler, n'est pas pour dissiper cette timidité, poursuivez-vous. Deux noms, pourtant, m'ont encouragé. Le premier est celui d'Henri Bergson, qui réveille un souvenir personnel. Je me rappelle le jour où M. Étienne Wolff, alors administrateur du Collège de France, m'a accueilli comme nouveau professeur dans la salle 8, où je devais plus tard faire tous mes cours. Cette salle est décorée sur le côté, près de la chaire, d'un grand médaillon à l'effigie d'Henri Bergson. Et par un geste naturel, quand le besoin s'en fait sentir, on tourne ses regards vers lui pour lui demander, disons le mot, un regain d'énergie spirituelle. Donc Bergson a protégé, en un sens, mon enseignement.
C'est exact, c'était au Collège de France et c'est assez intimidant déjà d'enseigner au Collège de France, mais ça a été une période très très heureuse. Ce que je voudrais dire à propos des indications que vous venez très gentiment de donner, c'est que mon sort a été d'être la première femme dans bien des occasions déjà auparavant. C'est intéressant du point de vue de l'histoire en général, si vous voulez. J'ai fait du grec comme élève au lycée, la première année où les femmes pouvaient faire du grec. J'ai eu des prix au concours général, la première année où les femmes avaient le droit de concourir au concours général. Je suis entré à l'école normale, deux garçons, rue d'Ulm, c'était pas du tout la première fois, mais c'était pas encore généralisé. Donc cela veut dire je suis arrivé dans l'ensemble au bon moment. Je n'ai rien fait pour cela, j'ai profité de ce que les portes s'ouvraient pour les femmes à ce moment-là.
Donc pionnière en quelque sorte, ou le jeu des circonstances et une passion avant tout pour les lettres.
C'est vrai que c'était une passion depuis le début, que ça allait rester au cours de ma vie, mais ce n'est pas à cause de ça que j'ai eu ces avantages et ces réussites. Par exemple, quand les classes de grec s'ouvraient, c'est de la chance, je n'y étais pour rien.
Concours de circonstances favorables à votre évolution et à ce parcours.
Oui, je suis arrivé au bon moment. J'ai beaucoup vécu près de ma mère, qui, elle, était une génération qui a dû lutter, se battre, et où les femmes n'avaient pas encore toutes les possibilités, ni de l'éducation, ni des métiers. Et puis, j'ai eu, en ce sens, de la chance.
On évoquait le personnage d'André Roussin, dont vous occupez le fauteuil, et avec beaucoup d'humour, vous disiez, toujours au cours de ce discours de réception, certains ont pu penser peut-être qu'entre lui et l'helléniste, il n'y aurait aucun lien. Ils ont pu s'amuser à l'idée que tout mon grec, pour cette fois, ne me servirait de rien. Eh bien non, vous nous avez prouvé, en faisant tout un travail d'investigation par rapport au grec, vous nous parlez d'un certain auteur de comédie, un certain Ménandre.
Oui, c'était peut-être un peu de pédantisme de citer Ménandre. Je dois dire que mes premiers rapports avec Roussin, avant que je lui succède, bien entendu, ça a été qu'il présidait un prix de littérature provençale et que j'avais écrit à ce moment-là un recueil de nouvelles ou un roman qui a eu le prix. Et André Roussin a fait le discours et il a lu des passages de mon livre avec une gentillesse, un talent d'acteur, une présence qui m'ont absolument ébloui. J'étais pour une fois ravie de ce que j'avais écrit quand c'était dit par lui. Ça a été ça notre premier contact. Et je suis restée depuis en contact avec sa famille.
Vous nous parliez de ces comédies de Ménandre en faisant un parallélisme en quelque sorte avec les comédies de Roussin. Vous disiez que ces comédies portaient sur les relations familiales et sentimentales à une époque pour laquelle on ne peut pas vraiment parler de boulevard. Donc vous soulignez déjà les renouvellements constants de l'hellénisme, cette actualisation.
Ah oui.
Des choses.
Oui, ça c'est certain. Je citais Ménandre parce qu'évidemment, dans la littérature ancienne, il n'y avait pas beaucoup de rapports entre Roussin et, mettons, Aristophane. D'autre part, Ménandre a été une des découvertes et des joies de ma jeunesse parce que on n'avait aucune comédie entière conservée de Ménandre et tout à coup on en a trouvé deux et c'était un auteur dans l'Antiquité très à la mode. Comme vous voyez, le grec vit de progrès lui aussi.
Portez-vous l'épée, madame de Romilly ?
Je ne la porte pas, je n'en ai pas. Je suis entrée d'abord à l'Académie des inscriptions où il est très rare que les membres portent l'épée, et l'on m'a donné en place d'épée un bijou fabriqué par Lalaounis, l'artiste grec, et représentant des symboles comme pour une épée. Les gens se sont cotisés, me l'ont offerte. Je ne pouvais décemment pas, quand je suis entré à l'Académie française, les solliciter de nouveau. D'ailleurs, je me passe très bien d'une épée dont je ne saurais pas me servir.
Madame de Romilly, ces deux élections dans les deux académies vous ont apporté une nouvelle façon de travailler, ont fait évoluer vos méthodes de travail. Indiquez-nous comment, si oui.
Je ne dirais pas que ça m'a apporté une nouvelle méthode de travail, car de toute façon, c'est arrivé un peu à la fin de ma carrière de recherche. Mais l'Académie des inscriptions a été, oui, un grand stimulant, parce que là, c'était des hellénistes, c'était des savants, c'était de la recherche, et on se tenait au courant de tout ce qui se faisait, on rencontrait des gens dévoués à la recherche scientifique, et d'ailleurs plus spécialement dévoués aux langues classiques, quoique ça ne soit pas l'unique objet de l'Académie des inscriptions. L'Académie française, c'était tout différent. Il est vrai que j'ai fait quelques incursions hors de mon domaine favori en écrivant des nouvelles, mais ce qui m'a beaucoup plu à l'Académie française, c'est le souci de la langue. Car moi qui suis professeur dans l'âme, je suis sensible à la langue et les discussions sur le dictionnaire m'ont toujours beaucoup amusé, quelquefois fâché, toujours intéressé.
Jacqueline de Romilly, c'est un certain jour de 1913 que vous voyez le jour à Chartres.
C'est exact. C'est pas un très bon moment pour naître. Mon père partit aussitôt pour la guerre où il a été tué. Ma mère est restée avec moi. Elle n'avait ni métier ni fortune. D'autre part, le frère de mon père a été tué également et le frère de ma mère aussi. J'étais fille unique, juste née. Et ça a été des conditions très dures pour ma mère de se trouver dans cette situation. Je n'en ai pas vraiment souffert, je n'ai eu aucun souvenir de mon père. Et nous sommes rentrés à Paris après la guerre. Mais je me représente que pour elle, cela a représenté un moment très, très dur.
Votre...
Et beaucoup de courage.
Vous indiquez que votre mère était femme de lettres, elle travaillait dans la littérature.
Elle a fait divers métiers juste après la guerre, elle était très douée, très active. Elle a écrit plusieurs livres, elle a aussi écrit pour le théâtre et elle a collaboré avec des grands personnages de théâtre comme Gémier ou Batty. Et j'en avais les échos, moi qui étais une bonne petite fille à la maison, mais c'était une ouverture aussi.
Vous provenez d'une lignée de professeurs.
Ah moi oui, ça c'est, il n'y a rien à faire. Mon père, qui est mort très tôt, mais était professeur de philosophie, très doué, brillant et normalien. Mon grand-père maternel était professeur de lettres et son père était professeur d'anglais. Alors vous voyez, c'était difficile d'échapper.
Et qui vous a transmis cette fièvre hellénique, comme on pourrait le dire ?
Simplement le contact avec le grec. Comme je le disais, j'ai pu en faire comme élève, ça m'intéressait, ça m'amusait, et puis j'ai continué. Quand je suis entré à l'école normale, je n'étais pas encore sûr si je voulais faire du grec ou de la littérature française. Mais ma mère, c'est un épisode que j'ai raconté souvent, mais qui est très important pour moi. Ma mère m'a acheté, pour me faire plaisir et me distraire, un très joli exemplaire de Thucydide, l'historien grec, relié en parchemin pour que je m'entraîne un peu à le lire pendant les vacances. Et j'ai commencé à le lire et j'étais tout à fait émerveillé par la beauté, la densité, la force de pensée de ce texte. Et j'ai décidé d'y consacrer un an. Je ne me rendais pas compte que j'allais y consacrer beaucoup plus qu'un an, puisque je m'en occupe aujourd'hui encore à mon âge.
Toute une merveilleuse aventure qui va vous mener jusqu'à l'obtention de la citoyenneté grecque. Racontez-nous.
C'était très émouvant. En effet, je mélange en fait deux choses. Il y a eu le prix Onassis, qui était un grand prix grec, qui a été donné cette année-là à Athènes, le soir, sur la grande place Lapnix, où autrefois parlaient les orateurs, avec autour tous les monuments d'Athènes éclairés. Et j'ai parlé là, là où parlaient les orateurs anciens, et j'ai parlé dans ce cadre où on voyait émerger les restes de l'Athènes d'autrefois. Ça, c'était très émouvant. Et d'autre part, la citoyenneté grecque, là, est émouvante pour le principe, mais ça n'a pas donné lieu à des cérémonies. Ça s'est passé à l'ambassade de Grèce en France. Le résultat en est très émouvant, mais ça a été tout à fait intime comme manifestation. Néanmoins, j'en suis très fier.
Remontons dans votre parcours de vie, Jacqueline Romy, après la guerre et l'occupation, à laquelle vous payez un tribut lourd. Vous êtes frappé, je crois, par la législation anti-juive de Vichy et qui vous suspend
d'enseignement. Oui, absolument. Nous avions, mon mari et moi, comme on disait alors, à nous deux, nous avions un grand-père de trop. Nous étions l'un et l'autre enfants d'un père juif et d'une mère qui ne l'était pas. Nous avons été considérés comme juifs et nous étions plein de sympathie. Nous avions beaucoup de liens avec tout ce monde-là et nous avons eu des deuils et des gens en camp de concentration dans notre proche famille. Cela a représenté pour nous des années de cache-cache où il fallait se faire petit et changer de nom et changer d'adresse. Mais on avait l'espérance, ça s'était lié, l'espérance de sortir de cette situation, d'échapper à la guerre, d'être sauvé de tout cela. Et cette espérance faisait que ce n'était pas atroce. L'espérance nous soutenait beaucoup.
N'est-ce pas justement pour continuer de faire vivre cette espérance, l'espérance qui nous permet de survivre, malgré l'horreur, malgré les abominations des guerres, que vous avez souhaité tout au long de votre vie de faire découvrir ou mieux connaître à vos contemporains une page de l'histoire que vous, vous avez découvert dans la civilisation grecque, où les mots douceur, justice que vous avez prononcés avaient, prenaient tout leur sens et présentaient une humanité si différente de celle qui vous a blessé, de celle qui vous a endeuillé?
J'étais déjà engagé dans la recherche de ma thèse, dans la rédaction de mon étude précise. Je ne me suis pas bien rendu compte, mais ma thèse traitait de l'impérialisme athénien, donc des moyens de la conquête et des dangers de la conquête. Il est évident qu'à chaque instant, je voyais un rapport. Je ne sais pas si l'influence a été aussi directe et que ça a dû peser de façon un peu inconsciente sur ce que je faisais. Je peux dire qu'après, ce rapport est devenu beaucoup plus conscient. D'abord, je me suis rendu compte que je souhaitais faire comprendre ce qui, dans l'héritage grec, était encore vivant, pouvait toucher les gens. Et plus il y avait de difficultés de ce côté-là, plus j'insistais. Et en dernier, enfin, ça n'est même pas en dernier, mais à plusieurs reprises, j'ai eu à étudier la démocratie athénienne, puisque c'est à Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, qu'a été inventée la démocratie et que les auteurs en ont exposé les principes et l'idéal, pas toujours réalisé dans les faits, mais avec beaucoup de chaleur dans l'idéal. Et alors, j'ai été amené à écrire sur la découverte de ces idées et leur importance et par conséquent à rejoindre de plus en plus des problèmes actuels.
Plusieurs ouvrages, de votre part, nous renvoient à cet idéal grec de la cité. Une cité dans laquelle la justice a toute sa place, et par conséquent l'homme juste. Donc des fondements indispensables à cette cité idéale. Une cité juste, c'est d'après vous, est celle où chacun remplit son rôle sans outrepasser ses droits.
C'est vrai, mais on peut dire que l'idéal de justice est commun à presque tous les états, les cités ou les réunions humaines. Et à l'origine, en Grèce, c'était cela qui comptait, comme d'ailleurs ça sera le cas en latin aussi. Mais j'ai aussi été très attiré, surtout, par le fait qu'à côté de cette justice, s'est développé ce que j'ai appelé, calquant un mot grec, la douceur, c'est-à-dire l'indulgence, la tolérance, le pardon, toutes ces qualités qui n'avaient pas une place très nette dans les écrits à l'origine, mais qui s'est développé d'une façon extraordinaire à partir du 5e siècle. On voit ces mots et ces notions remplir les textes. Et je crois qu'en définitive, c'est très important, même avant ce 5e siècle et cette démocratie. Vous voyez, on revient toujours à Homère, qui pour moi est une merveille. Eh bien, dans Homère, c'est vrai que c'est en pleine guerre, il y a des morts, il y a de la cruauté, il y a de la violence et du sang versé. Mais dans Homère, d'abord, il y a le fait que les chefs consultent, s'intéressent, demandent leur avis, mais il y a surtout la douceur, je reprends ce mot, dans la façon dont est traitée la belle Hélène à Troie, dont Hector est humain, courtois, généreux, avec sa femme dont les adieux d'Hector et d'Andromaque sont célèbres, mais aussi dans l'ensemble, il y a d'autres héros qui ont cette douceur. Et après ça, c'est devenu un des signes de la démocratie grecque, dont on disait que c'était le régime le plus doux. Et vous voyez que ce mot s'oppose très nettement à la violence. Et je crois que là aussi, j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « La Grèce antique contre la violence », qui me paraît devoir être un peu actuel en ce moment où nous connaissons tant de violence dans le monde. Ça ne veut pas dire du tout que les Grecs n'aient pas connu et pratiqué la guerre civile, les cruautés. Ils ont connu tout cela, ils en ont souffert. Mais les textes ont été tellement forts et éloquents pour condamner ces violences que je crois que là aussi, ils nous apportent un message encore très précieux.
La clé du langage ouvre bien des portes, selon vous, Jacqueline de Romilly.
Ah oui. Et d'ailleurs, vous me dites cela à propos de la violence, mais il est certain que remplacer la violence et les gestes de violence par le débat bien organisé, l'analyse, la parole, c'est capital pour toute culture.
Et tout cela fait partie de ce que vous appelez les savoirs oubliés. Cette masse de tout ce que nous avons appris, soit dans la vie, soit en classe, dont nous avons l'impression qu'il ne nous reste rien, mais c'est une impression, selon vous, totalement fausse, car la connaissance laisse toujours une trace, même si nous n'en avons pas très bien conscience. Or, ces souvenirs enfouis, écrivez-vous, constituent un ensemble de références qui nous aident à penser et à vivre.
J'en suis convaincu, et c'est pour moi une des beautés de l'enseignement, c'est que ce qu'on sème reste de quelque façon, forme l'esprit, donne le goût d'admirer tel héros, telle valeur. Je ne suis pas sûr que pour l'idéal de démocratie et de douceur que j'évoquais à l'instant, ça puisse être jamais des souvenirs oubliés. J'ai écrit le livre relatif aux souvenirs oubliés au moment où j'étais en train de perdre la vue et où tout ce qui était souvenir devenait particulièrement précieux. Et il se peut que dans tout ce trésor de grec, il y ait eu des éléments précis, particuliers, que l'on oublie et qui vous reviennent un beau jour. Mais je crois que ces valeurs profondes, ce que l'on admire, le rayonnement des héros, ça ne peut pas être appelé tout à fait un souvenir oublié. On pense en leur compagnie, on vit en leur compagnie, c'est toujours présent.
Lors de votre discours de réception, vous avez dit « Votre vote me touche, même d'autant plus qu'il prend ainsi à mes yeux une valeur symbolique, car de toute évidence, il ne va pas à ce que j'ai pu faire, il va donc à ce que je représente. » Un professeur, une helléniste, vous aurez, je pense, voulu montrer que si la recherche en ce domaine était à sa place à l'Académie des inscriptions et des belles lettres, où j'ai eu en effet la joie de siéger depuis 14 ans, l'enseignement littéraire, lui, avec tout ce que l'on appelait naguère, non pas les langues mortes, mais les humanités, restait à vos yeux lié à la qualité de la langue française sur laquelle vous veillez et au rayonnement de la littérature française que vous illustrez. Pour l'apprentissage du français, le lien est si évident que j'ose à peine le rappeler. Les mots de notre vocabulaire ne prennent-ils pas leur transparence lorsque l'étymologie les éclaire ? Alors, vous nous vantez ensuite toutes les qualités de cette recherche au niveau de la langue. Mais la langue française n'est pas seule en cause, ni les études classiques seules en danger. Est-ce la griserie du progrès scientifique, demandez-vous, est-ce l'urgence d'obtenir dans un monde difficile un gain immédiat? Certains, en tout cas, semblent s'être imaginés que l'on pouvait d'un coup mettre en veilleuse les études littéraires dans leur ensemble.
Oui, oui.
Et vous vous insurgez, bien évidemment, depuis toutes ces dernières années, contre cet état d'esprit et de fait.
C'est parfaitement vrai, j'avais oublié ces phrases de mon discours de réception, mais je serais prête à les signer d'enthousiasme maintenant. C'est vrai que je crois qu'on peut tirer du grec de grandes richesses pour la formation de l'esprit et la préparation à la vie. Je le dis peut-être d'autant plus que ces études ont subi des coups terribles. Déjà, quand j'écrivais ce discours, la situation devenait difficile. Elle a empiré. Le grec n'étant pas directement utile, le matérialisme s'en est mêlé. On a dit à quoi ça sert, on n'en veut pas. Et puis, il y a le fait que c'était un enseignement autrefois réservé à ceux qui faisaient des études. Donc, bourgeois et anciens, et ça a été repoussé. Puis sont venues les économies et on n'a pas voulu garder des classes qui ne soient pas assez nombreuses. Donc, la discipline que j'aimais entre toutes et dont j'avais vu dans, au cours de mon enseignement le bénéfice et l'utilité était menacée de disparition. Alors, quand je m'en suis rendu compte, ça a été une sorte de tournant dans ma vie après avoir fait la recherche savante et aussi sérieuse que possible, quand même éditer le texte de Thucydide, ça a été 10 ans de travail, vraiment quelquefois laborieux et pénible. Et il m'a semblé qu'il fallait absolument s'occuper de préserver et de remettre à leur place ces études. Je n'ai pas très bien réussi parce qu'elles ne vont pas bien, mais enfin, elles vivent encore. Nous avons fondé avec d'autres collègues une association qui s'appelle Sauvegarde des enseignements littéraires et je crois qu'elle est encore plus nécessaire maintenant qu'il y a 11 ou 12 ans quand nous l'avons fondée. Et j'essaye encore à mon âge, de toutes mes forces, et je suis touché quand je vois que dans l'opinion, cela commence à avoir de l'effet et à porter des fruits. Pas encore dans l'enseignement, mais dans l'opinion, oui.
Vous sentez les choses changer de façon positive avec un outil aussi formidable qu'Internet, par exemple, est-ce qu'il existe des sites où l'on puisse s'interroger sur l'étymologie des mots, sur toute cette recherche passionnante par rapport aux langues ?
À ce niveau-là, certainement. Comme j'ai maintenant perdu la vue, je ne peux pas moi-même profiter d'Internet. Mais je vois avec quelle facilité mes élèves ou mes amis me communiquent des renseignements. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que je visais avec l'enseignement. Internet, on peut avoir tous les renseignements. Une personne déjà formée peut trouver même les textes, elle peut les trouver, on peut les trouver tous et les renseignements de fait. Mais il n'y a pas ce que l'enseignement seul peut donner, cette espèce d'imprégnation d'un effort long, le grec ou le latin, mais le grec étant un peu difficile et déroutant au premier abord, ils sont obligés de faire attention. Et dans la mesure où ils font attention, un petit texte pénètre, ils s'en souviennent, un héros tout à coup parle à l'un ou à l'autre, une anecdote. Et c'est ainsi que les choses se forment, lentement, par un contact. C'est pas seulement savoir que le texte existe et le consulter. C'est vraiment se battre pour en avoir le sens et se laisser à loisir en être pénétré.
Est-ce que la langue ne représente pas le véhicule pour nous amener vers une société, comme vous le disiez tout à l'heure, dont nous pourrions rêver, une société empreinte de douceur, de justice, une société idéale en quelque sorte? Et n'est-ce pas pour ce deuxième combat que vous vous êtes engagée, que vous êtes vice-présidente et animatrice active de l'association L'Élan? L'élan nouveau des citoyens.
Oui, exactement.
Expliquez-nous à quoi cela correspond, cette création de l'élan
nouveau des citoyens. C'est pour moi une activité beaucoup plus récente. C'est une association qui cherche à réveiller un peu le civisme et la solidarité des gens en leur proposant des activités, des contacts, des discussions, où en ce moment il y a par exemple un échange de lettres, un enfant isolé correspondant avec un adulte ou bien avec un enfant francophone étranger, de façon à ce que le tissu social soit resserré. Ça paraît a priori une activité un peu différente de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et pourtant, il y a une grande unité. Je veux dire que le contact avec le grec, avec le civisme et la démocratie et l'exaltation de certaines vertus dans les textes grecs mène à propager et faire connaître ces mêmes mérites le plus possible, sans qu'il soit indispensable de, pour cela, de passer par le grec. C'est au-delà, c'est, ça se situe dans la même ligne. Et d'autre part, l'effort de cette nouvelle association, comptant là-dessus, nous aide à défendre les études classiques. Et vous savez, je dois préciser, il ne faut pas dire seulement le grec, parce qu'il est très menacé, mais c'est le grec et le latin, et ce sont les études littéraires. C'est pour ça que je ne me sens pas très honoré, mais pas déplacé à l'Académie française, parce que c'est l'étude de la littérature française et la défense de la langue française. Et tout ça, c'est un même ensemble qui doit collaborer. Je soutiens que le grec doit y avoir sa part et une part vraiment importante, mais c'est un tout. Et je crois que on se rend compte que le progrès scientifique extraordinaire auquel nous assistons réclame presque une insistance plus grande sur ces études littéraires, la formation d'un idéal, de l'esprit critique, de la connaissance de ce qu'il y a eu avant, de façon à ce que les inventions scientifiques, on en fasse le meilleur usage possible, ce qui, comme vous savez, n'est pas toujours le cas.
La conservation de toutes ces études sur les langues, que ce soit le grec ou le latin, sont pour vous des ouvertures sur des mondes bien loin et pourtant si proches de nous, rappelez.
Oui,
vous nous rappelez ceci, à l'heure de l'Europe, il est important de se souvenir et de continuer de pratiquer.
Absolument. Et ce dernier argument, vous mentionnez l'Europe. J'ai insisté plusieurs fois sur le fait que le grec et le latin, surtout le latin, mais qui était tout pénétré de grec, et selon les pays, ça a été la culture commune des pays européens, et qu'il est complètement absurde d'y renoncer juste au moment où on voudrait cimenter un peu et rendre un peu plus proche de la pensée, des sentiments et de la culture, l'Europe.
Alors, quels sont les obstacles majeurs que vos contradicteurs avancent en 2006 ? Pourquoi ne pas développer ces études ? Pourquoi les avoir stoppées à un certain moment ?
Je ne vais certainement pas profiter de cette occasion pour développer leurs idées que je crois fausses. Je me contenterai, hélas, d'insister sur une. C'est que si ces études sont en difficulté, c'est parce que de part et d'autre règne un matérialisme qui fait que l'État fait des économies là où il ne devrait pas, et que les parents ou enfants ou élèves songent avant tout aux bénéfices immédiats qu'ils auront en sortant de leurs études. Ils ne se rendent pas compte, pour ces derniers, que quel que soit le métier qu'ils feront, une bonne formation de l'esprit, une bonne maîtrise de la langue, une bonne habitude de s'exprimer, de repérer les contradictions dans un texte, de reconnaître ce qui est le plus sage, ce sera utile indirectement, mais extraordinairement utile, quel que soit leur métier.
Vous évoquiez tout à l'heure les grands héros de la civilisation grecque. Vous avez dû entendre parler, pour votre plus grand plaisir, d'un grand succès hollywoodien de ces derniers temps qui relatait la guerre de Troie avec de grands acteurs à la mode des États-Unis. Donc, on le sent bien, les jeunes générations sont toutes en attente et restent tout à fait ouvertes et favorables à ce qu'on leur raconte à nouveau l'histoire de ces grands héros.
Oui, c'est vrai, mais j'aimerais mieux qu'on la leur raconte à peu près exactement et avec la simplicité et le rayonnement qu'ils avaient dans les vrais textes des poètes.
Vous devriez être associée aux scénaristes hollywoodiens, Madame de Romilly.
C'est très curieux, ils ne m'ont pas demandé. Mais je crois que le texte aurait été un peu différent. Hélas, vous savez, il y a le scénario, mais il y a la qualité littéraire et morale, l'expression. Vous comprenez, quand Hector dit adieu à sa femme Andromaque et que nous sommes encore bouleversés par cette scène aujourd'hui qui occupe quelques pages, ça ne sert à rien de dire il s'en va et il dit au revoir à sa femme. Pour que ce soit émouvant, il faut qu'il y ait la retenue, la pudeur, le geste de tendresse et que c'est cela qui passe. Et de façon tellement simple et brève, c'est pas un grand film hollywoodien, c'est une page et demie, deux pages. Mais il y a la force d'une expression et surtout d'une inspiration, d'un contact de certaines valeurs, d'une humanité qui passe parce qu'elle était là.
Oui, vous nous rappelez que le héros fait ressortir tout ce qui est propre à l'homme, l'homme pris dans son universalité.
Ça, je tiens beaucoup à cette idée. Je veux dire que les anciens Grecs, romains aussi, mais surtout les anciens Grecs, cherchaient toujours quelque chose qui soit universel. Et les héros, on ne donnait pas tant de détails, de particularités. On ne disait pas qu'ils étaient extraordinaires ou surhumains. Ils étaient tout proches de nous. Il n'y avait pas de détails déroutants. C'était, tenez, je viens de parler d'Hector et d'Andromaque. J'ai souvent cité comme exemple, quand Ulysse rencontre Nausicaa, la belle jeune fille, on ne nous dit pas elle était habillée comme ceci, elle avait des colliers, son visage avait telle forme, etc. La seule chose qui est dite sur sa beauté, Ulysse dit qu'il a vu autrefois un jeune palmier à Délos et qu'elle ressemble à ce jeune palmier. Autrement dit, la jeunesse, la santé et cette espèce de respect qui s'y attache. Vous voyez, c'est une façon de sentir les choses. Et moi, mon historien Thucydide, qui raconte, en principe, ça devrait pas du tout nous intéresser, la guerre entre Athènes et Sparte, qu'est-ce que vous voulez que nous en fassions? Mais il cherche les mobiles humains qui peuvent expliquer l'histoire, qui peuvent se retrouver. Et il y a une phrase que j'ai citée combien de fois dans ma vie, je ne sais pas, mais qui est tellement caractéristique, c'est qu'il voudrait que son histoire soit utile pour ceux qui voudront voir clair dans les événements du passé, et aussi dans ceux qui, à l'avenir, pourraient leur ressembler à cause du caractère humain qui est le leur. Le caractère humain, c'est cela qu'ils cherchent. Et à mon avis, c'est cela dont nous avons grand besoin.
Ces héros sont, dites-vous, construits sur un modèle dans lequel tout être humain retrouve une part de lui-même.
Oui, c'est vrai.
Mais c'est fondamental parce qu'ils sont proches de nous, très loin. Vous le dites, des archétypes symboliques d'autres cultures, avec les légendes d'Irlande, ces géants, avec 36 paires de bras, de jambes.
Oui, oui.
Ce sont des hommes et des femmes proches de nous, mais qui nous ouvrent des voies au niveau de la justice, au niveau de l'équilibre, au niveau de la douceur.
Ça ne veut pas dire qu'il faille tous les imiter. Dans la tragédie, il y a quantité, nous disons, héros ou héroïnes, et ce sont des gens qu'il ne faut pas imiter. Mais ce sont des problèmes qui se posent encore dans le monde actuel et qu'on peut comprendre et à quoi on peut réagir. Je suis très agacée quand, à propos des études classiques, on se met toujours à parler de l'esclavage ou bien des guerres et des conquêtes. Bon, ça existait chez eux, comme dans toutes les civilisations de cette époque ou même de bien après, où le fait que les femmes n'étaient rien encore. Oui, tout ça est vrai, mais on s'attache à ce qui est un signe du passé, alors que toute cette littérature tant et réussi à atteindre au-delà de ce passé, à atteindre jusqu'à nous. Et quand on pense le nombre de générations qui ont été émues, inspirées par tel texte ou par tel autre, ils peuvent avoir eu des interprétations diverses, ils peuvent avoir choisi telle forme ou telle autre d'héroïsme ou d'admiration ou de douceur. Mais de toute façon, les problèmes sont passés à travers les siècles.
Oui, c'est pourquoi vous vous attachez à retrouver cette permanence de l'homme qui mesure toute chose, de l'être humain dans ce qu'il a de plus intime, tout à la fois microcosme et puis reflet d'un cosmos entier, dites-vous.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je crois, c'est ce qui m'éblouit chaque fois, même encore maintenant à mon âge, quand je reprends ces textes. Et je les connais et tout à coup j'ai un moment d'étonnement et de ravissement, parce que c'est comme ça.
Vous dites, les Grecs sont libres, plus libres que nous aujourd'hui ?
Sont plus libres que nous. Si j'ai dit ça sous cette forme, c'est un peu exagéré. Ils n'avaient pas du tout une idée de la liberté aussi exigeante que nous. Mais ils vivaient de la liberté qu'ils avaient par l'État, par la cité. Ils étaient fiers d'appartenir à cette cité. Ils ne réclamaient pas leur liberté par rapport à la cité, de même qu'ils ne cherchaient pas à l'affirmer contre la loi. La loi était pour eux ce qui garantissait l'égalité, parce qu'elle était écrite commune pour tous, et que par conséquent les riches ne pouvaient pas profiter de leur richesse ou les forts de leur force pour opprimer les autres. Ils en étaient fiers, ils considéraient que c'était ce qui assurait pour eux, toute la joie et les possibilités de vivre et même la liberté. Naturellement, nous avons des exigences beaucoup plus précises. Mais inversement, dans des grands États comme les nôtres, évidemment, il y a beaucoup de règlements et de pesanteurs qu'ils n'avaient pas. Mais on ne peut pas dire qu'ils étaient en tout, ils étaient autrement libres.
Vous dites que les Grecs, eux, nous parlaient de la politéia. Ils ignoraient les mots « régime » ou « constitution », mais « politéia », c'était important pour eux. Pourquoi ?
Oui, d'abord, c'est la notion, j'ose à peine dire, la ville, polis, le mot grec. C'était tout pour eux. Ils appartenaient, ils étaient citoyens. Et vous voyez que l'association dont nous parlions s'appelle l'Élan Nouveau des citoyens. Mais il y a aussi les droits de l'homme et du citoyen. Enfin, nous n'avons pas quand même tout à fait perdu cette notion. Et alors, politéia, c'est la façon de vivre dans une cité. Et pour nous, si on dit régime ou constitution, on pense à une série d'actes avec des droits des uns ou des droits des autres. Alors que, et c'est une thèse que j'avais dirigée autrefois, quand les anciens voulaient décrire une politéia, le régime d'une ville, ils disaient la façon de vivre, les valeurs, comment tout se passait, comment les gens se mariaient, vivaient, ce qu'ils estimaient. Tout ça faisait partie de ce qu'on appelait le régime. Et quand dans l'oraison funèbre que Thucydide prête à Périclès, il fait l'éloge du régime athénien, il décrit les fiertés d'Athènes, les fêtes, la façon dont on participe, la possibilité pour des gens différents de vivre ensemble dans une même cité. Il décrit des valeurs et non pas des institutions.
Vous dites, il décrivait une façon de vivre dans laquelle tout se tenait, les oui. pouvoirs, mais aussi les mœurs, oui. les pratiques et les valeurs.
Écoutez, vous m'avez très gentiment et bien lu, mais je souscris encore tout à fait à cette formule. Et je crois qu'à l'heure actuelle, nous discutons trop de tel ou tel droit et nous n'entretenons pas assez le sentiment des valeurs, de ce que nous voudrions voir faire, de ce que nous espérons, de ce à quoi nous pouvons contribuer.
Alors, pour aller un peu plus en explication par rapport à cette politéia, vous nous rappelez qu'il existait une véritable égalité de parole pour chaque citoyen dans cette démocratie.
Vous... Oui, c'est le grand principe. C'est comme ça qu'il définissait la démocratie. C'est-à-dire que tous les pouvoirs importants étaient entre les mains de l'Assemblée du peuple et qu'à l'Assemblée du peuple, il y avait tous les citoyens de plus de 18 ans qui devaient naturellement tous voter, mais qui théoriquement pouvaient tous prendre la parole. Et cette notion d'égalité dans la participation à l'Assemblée a été pour eux fondamentale. Naturellement, c'était beaucoup plus facile quand il s'agissait de quelques milliers de personnes. Une démocratie directe n'est pas possible dans de grands États modernes. Mais ce sentiment de participer, d'être responsable, est quand même attaché à cette égalité de parole.
Alors, nous évoquions la justice, où chaque citoyen, tour à tour, pouvait être juge, avocat et s'exercer en quelque sorte à cette recherche de la responsabilité aussi.
Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup frappée récemment quand j'ai écrit le livre sur l'élan démocratique. C'est quand on regarde l'organisation de ces tribunaux, le soin qu'ils avaient pour que la justice fût rendue par les citoyens. C'est-à-dire, il n'y avait pas de juges formés professionnellement. Ce serait ce qu'on appelle des jurés, mais c'était des centaines de jurés à chaque fois qui décidaient. Et ils étaient tirés au sort au dernier moment, de façon à qu'on ne puisse pas agir sur eux. Quant à être avocat, à l'époque classique, il n'y avait pas d'avocat. Le citoyen devait plaider lui-même. Il pouvait se faire donner des conseils, mais il plaidait lui-même. Donc cela développait un sentiment de responsabilité, une habitude de discuter sur la culpabilité, qui me paraît avoir donné une grande influence sur la littérature, mais avoir donné des résultats vraiment précieux.
Et qui a développé donc, comme vous le dites, un essor intellectuel prodigieux.
Oui.
Et vous faites la relation entre la mise en place de cette politéia et de toutes ces dispositions de l'ordre du politique qui entraînent une responsabilité citoyenne et un essor intellectuel pour tous ces
oui,
gens. Formidable.
Naturellement, je vous entends avec joie, mais je dois préciser que ce n'était pas ni une telle réussite, ni une telle euphorie sans arrêt. On cherche à faire cela. Le discours de Périclès montre ce à quoi on tend. Il est certain que tous les citoyens n'étaient pas sans arrêt responsables, conscients et lucides. Il est certain que les foules réunies à l'Assemblée ont fait de considérables sottises par l'entraînement et par l'incompétence. J'insiste parce que ces défauts sont évidents, mais à mes yeux, ils n'ôtent rien au message. Ce qui compte n'est pas les faits et ce à quoi ils sont arrivés, mais les écrits et ce qu'ils nous ont proposé qui est encore vivant.
Ces écrits qui peuvent être pour nous une sorte d'intention pour l'homme, de désir, de responsabilité de sa propre vie et du bien commun.
Oui, très exactement.
Votre bibliographie, Madame Jacqueline de Romilly, compte plus de 37 ouvrages et un recueil de nouvelles, Laisse flotter les rubans, paru chez De Faillois en 1999.
Je peux même dire qu'il y a 4 recueils de nouvelles.
4 recueils de nouvelles, et certaines de ces nouvelles ont même été l'objet de mises en scène dans des théâtres parisiens et ont rencontré un très beau succès.
C'était très gentil de leur part et pour moi un peu surprenant, parce que dans mes nouvelles, il y a très peu d'action et ce n'est évidemment qu'un à côté. Je ne suis pas un véritable écrivain, je suis un très bon professeur de grec, mais pas un très bon écrivain. Eh bien, là, c'est un petit groupe, ils ont été très gentils, ils ont eu l'idée de prendre 3 nouvelles et de les représenter sur la scène. Ça a été joué par Bérangère Dautin, de façon très distinguée et charmante. Pour moi, ça a été une surprise, mais j'ai connu la vie du théâtre autrefois par rapport à ma mère. C'était une surprise, je ne suis pas du tout un auteur de théâtre.
Alors, quel plaisir éprouvez-vous à écrire, justement, soit roman, soit nouvelle ?
Oui, je devrais en effet me poser la question. Quand j'étais en plein dans ma vie d'enseignement, je n'osais pas. J'avais l'impression que la recherche, le grec, devait prendre tout mon temps. Et puis quand même, c'est une tentation quand on vit au contact des textes et qu'on a vu écrire, n'oubliez pas que ma mère écrivait, on essaye un peu de vouloir exprimer à son tour quelque chose, plus modestement que tous les grands textes, mais dire, l'effort d'exprimer, c'est difficile et c'est amusant. Puis alors, je dois ajouter un dernier élément, c'est que je peux encore le faire. J'essaye en ce moment d'écrire une petite chose sur l'Orestie que je connais, d'Eschyle, que je connais très bien. Vous savez, quand on ne peut plus lire, regarder les éditions, vérifier le texte que l'on veut citer, ça devient difficile. En revanche, rêver sur ce que l'on a vécu, sur des impressions qui restent, sur un souvenir qui tout à coup s'impose, cela reste possible et cela est assez précieux.
Jacqueline de Romilly, vous souvenez-vous des circonstances de l'écriture de votre nouvelle « Le Godelureau et l'Olivier ».
Oui, bien sûr, parce que c'est une des nouvelles qu'ils ont prises pour le théâtre, oui.
Nous allons en donner quelques extraits. Quoi ? Qu'arriva-t-il ? À vrai dire, rien du tout. Simplement, Alice vit devant elle la beauté de l'arbre, dont les feuilles brillaient dans la lumière et accrochaient le soleil. Et elle en fut comme suffoquée. Jusque-là, elle n'avait rien regardé. Elle travaillait, elle bataillait. Et plus tôt encore, elle n'avait rien regardé. Elle ruminait sa déception. Tout à coup, vue d'en bas, toutes ses feuilles, qui montaient et brillaient et se pressaient vers le ciel, s'imposèrent à elle par surprise. Il est impossible de dire la beauté d'un feuillage d'un olivier quand un peu de vent fait bouger ses feuilles et qu'elle se détache sur un ciel bleu. Celle-là se détachait aussi sur le vert plus sombre des pins. Et elles en semblaient plus lumineuses, sèches, légères, vivantes. Et comment dire la couleur des feuilles de l'olivier ? Alice savait que les Grecs parlaient d'olivier au feuillage glauque, mais le mot glauque suggère l'humidité, l'ombre. Peut-être les grands oliviers de la Grèce donnaient-ils cette impression. Mais là, tout remuait comme du vif argent sous la caresse du vent. Parmi ces feuilles si nombreuses, les unes offraient leur côté ombre, tiquetant de taches sombres, toute cette lumière et lui donnant sa profondeur, comme si elles alliaient la terre et l'air. Parce qu'Alice était passée par un moment de désarroi, comme par un temps mort, ou peut-être parce qu'elle avait travaillé avec tant d'acharnement à son humble nettoyage, la beauté de l'olivier dressée dans la lumière lui pénétra le cœur, comme si c'était le premier olivier qu'elle eût jamais vu. Jacqueline de Romilly, vous évoquez un bel olivier qui provoque toute une réaction positive chez votre héroïne. Vous êtes très attachée à la nature ?
Je suis très attachée à ma maison de Provence. Et si l'on parle de mes écrits « Loin du grec », le livre qui m'est peut-être le plus proche, c'est « Sur les chemins de Sainte-Victoire ». C'est une description des promenades dans la montagne, dans la beauté de ce pays de Provence. Alors j'ai une toute petite maison là-bas et tout ce qui a trait à cette petite maison, à la nature qui l'entoure, tout cela m'est cher. Alors les oliviers, naturellement, ils sont lamentables, mes oliviers. Rien à voir avec les magnifiques arbres de Grèce, anciens, costauds, superbes. Mais ce sont quand même des oliviers. Et ils jouent quand même avec la lumière, avec ses feuilles et... Cela me donne, même maintenant où j'ai presque complètement perdu la vue, je peux encore en tirer un grand plaisir, voir ce jeu de reflets dans le soleil. Je peux même voir avec une petite machine agrandissante, je peux encore voir la chère montagne Sainte-Victoire depuis ma maison, depuis ma terrasse. Et pour moi, c'est très important, ça remet l'équilibre. Vous savez, dans ma vie, j'ai trop travaillé, il n'y a pas de doute. Mais j'ai eu ce contact-là, qui, chaque fois, chaque vacances, rééquilibrait les choses.
L'olivier, un arbre plein de symboles ?
Oui, c'est l'arbre d'Athéna, naturellement. Mais je ne suis pas sûr que... Je pense sans arrêt au fait que c'est Athéna. Ça me rappelle évidemment les beaux paysages de Grèce ou les évocations d'oliviers de Grèce. Mais c'est beau directement. C'est beau comme la lumière, c'est beau comme les couleurs. Je me rends compte que célébrer cela quand on n'y voit presque plus est un peu un paradoxe. Mais j'ajouterais, et une de mes nouvelles a essayé de le dire, que... Même en voyant très peu, on peut encore avoir des joies par la vue. On voit des paysages beaucoup plus flous. Mais après tout, les impressionnistes représentent souvent des choses un peu floues, changeantes, bougeantes. Eh bien, je ne sais pas comment ce sera demain. Mais tous ces derniers temps, j'avais encore une grande joie à me retrouver dans la lumière de la Provence. Et avec mes pauvres oliviers qui ne sont pas très brillants, mais que j'aime.
Au cours de votre parcours de recherche, de travail, d'études, avez-vous eu souvent l'occasion d'aller en Grèce ? Et sur ces lieux, avez-vous vécu des émotions, des sentiments particuliers par rapport à tout ce travail de recherche que vous faisiez en parallèle ?
Il faut que je précise... qu'à la différence de la plupart des hellénistes actuels, je ne suis pas archéologue, je n'ai pas été à l'école d'Athènes, je n'ai pas vécu, fait des fouilles, été en contact constant avec ça. J'ai eu une révélation de la Grèce quand j'étais étudiante et que j'ai été... comme étudiante dans une croisière, et évidemment j'ai eu la surprise de voir que tout cela était réel, réel, proche, beau. Mais mes émotions sont plus littéraires que, et en contact des textes qu'au contact même de la beauté à laquelle je suis sensible et du paysage grec. J'ai surtout été en Grèce en vacances, avec des amis gréco-français, et nous parlions français d'ailleurs, nous étions bien accueillis, tout ça était plein d'amitié, et cette amitié était une sorte de prolongement de mon amitié avec les textes. Mais le vrai contact, c'était quand même les textes, les livres, ce qui était écrit.
Tout un joli livret vient de paraître, portant le titre de La Belle Hélène, suite d'un colloque tenu à la Fondation Saint-Gerre-Polignac.
Une conférence, il n'y avait pas de colloque. C'était une simple conférence.
Alors justement, cette émission s'inscrit à l'occasion de la prochaine Journée internationale de la femme. Quelques mots sur la belle Hélène, sur cette Hélène. Femme infidèle ou bien enlevée malgré elle?
Eh bien, c'est une question que toute la littérature du 5e siècle s'est posée et a discutée. Je vous ai dit qu'ils avaient appris à plaider, à considérer les arguments pour et contre. La belle Hélène, enlevée par Paris, emmenée à Troie et devenue la cause de la guerre de Troie, a été l'objet de quantité de textes où se discutait cela. Et j'avais le désir de suivre ce débat à travers la littérature, éventuellement la musique, mais c'est quand même essentiellement propre à la Grèce. Il y a eu des échos modernes que j'ai tenté de réunir, mais il reste quand même ce fait que c'est cette ardeur à discuter qui a multiplié les textes. On a cité dans cette conférence et on a fait représenter, très gentiment joué par de jeunes acteurs qui se sont donné beaucoup de mal, des textes d'Eschyle et d'Euripide, à quoi j'ai ajouté des textes de prosateurs que j'ai évoqués, de philosophes, d'orateurs. Et puis on a joué aussi de courts extraits de Claudel, de Giraudoux et pour finir de Roussin. Si bien que vous voyez, nous bouclons la boucle. Ça a été l'objet, enfin je lui ai succédé et j'ai fait sur lui mon discours de réception à l'Académie française. Et voilà que maintenant qu'il n'est plus, il termine cette conférence sur la belle Hélène. Un des intérêts de la belle Hélène était aussi, et ça c'est proprement grec, la place de la beauté.
Oui, mais Hélène reste aussi pour certains l'incarnation au féminin, malheureusement, de la guerre, du malheur, de la malédiction.
Et bientôt... La malédiction, c'est beaucoup dire. Il y a juste Eschyle qui l'a maudit, mais essentiellement parce que par sa faute, il y a eu la guerre de Troie et que cette guerre a été douloureuse et destructrice.
Les auditeurs de Canal Académie vont avoir le privilège d'assister maintenant, comme s'ils y étaient, à des moments de cette conférence donnée par Madame Jacqueline de Romilly le samedi 19 novembre 2005 à la Fondation Saint-Gerre-Polignac sur la belle Hélène.
Je suppose que beaucoup d'entre vous la connaissent surtout par Offenbach. Je voudrais remonter un peu plus haut, vous rappeler qu'elle est fille de Léda, comme Clytemnestre, mais qu'elle est aussi fille de Zeus, le roi des dieux, que Zeus avait séduit Léda en prenant la forme, comme vous savez, d'un cygne, mais cela fait une naissance divine, et Hélène était à Sparte considérée comme une déesse. Elle était très très belle, comme vous savez, et il y a eu ce fameux jugement de Paris où le fils du roi de Troie a dû trancher entre trois déesses qui se livraient, étonnamment, à un concours de beauté. Le prix étant allé à Aphrodite, il avait gagné Hélène. Il l'a ou séduite ou enlevée et emmenée à Troie en Asie mineure, d'où la guerre de Troie. Elle a eu aussi d'autres aventures. Très jeune, elle a été enlevée par Thésée, mais sauvée à temps, je vous rassure, par ses frères les Dioscures. Enfin, quand on est la femme la plus belle qui soit, on risque d'avoir des aventures. Pour ce qui est de la guerre de Troie, vous voyez le problème. Coupable ou pas, enlevée ou séduite. Et c'est un problème qui a intéressé énormément la pensée grecque, comme j'essaierai de vous le montrer. D'abord, Homère, avec une vision très aimable de Hélène. Et Homer, dans l'Iliade, raconte une guerre causée par Hélène, où Hélène est l'enjeu. Eh bien, il présente une Hélène charmante et courtoise et que tout le monde accueille de la façon la plus aimable en la traitant très bien. Ensuite, je saute 3 siècles, le 5e siècle, l'époque d'Athènes en démocratie, l'époque des discussions devant l'Assemblée, devant les tribunaux, sur la culpabilité, la responsabilité. Et tout le monde discute le cas d'Hélène, coupable ou innocente. Et puis un troisième temps, qui est à la fin de l'œuvre d'Euripide, où Hélène n'a jamais été à Troie. C'est un fantôme, une image que les dieux ont forgée, et quand Ménélas revient de cette épuisante guerre de Troie, il a l'heureuse surprise de trouver sa femme Hélène qui l'attend sagement en Égypte. Vous voyez que c'est quelque chose d'assez surprenant, et ça n'est plus une tragédie comparable aux précédentes, c'est quelque chose qui se rapproche en réalité du théâtre de l'absurde.
Du théâtre de l'Antiquité, évoquons toujours aux côtés de Jacqueline de Romilly une pièce contemporaine de Jean Giraudoux, créée en 1935, La guerre de Troie n'aura pas lieu.
Je vous rappellerai que nous sommes avant la guerre de Troie, que tous les personnages à Troie, les personnages sympathiques, souhaitent éviter la guerre. Et Hélène, eh bien, rappelez-vous, Hélène est charmante. Elle est très jolie, elle n'est pas sérieuse du tout. C'est fini, Hélène sérieuse. Elle est charmante, mais pas sérieuse. Mais sa bonne volonté est totale. Elle est prête à faire tout ce qu'on voudra, à essayer. Simplement, elle n'y croit pas. Elle ne voit pas ça. Elle ne croit pas que ça arrivera. Comme vous le savez, la guerre de Troie a eu lieu. Mais ce n'est pas ni la faute des dieux du destin, ni la faute d'Hélène. Si la guerre de Troie a lieu, c'est à cause des hommes politiques aux mauvaises intentions, à cause des poètes, il faudrait traduire de la presse, ayant des idées de guerre et qui obtiendront la guerre par un mensonge. Alors, on va vous jouer une partie de cette scène qui vous rappellera les merveilleuses représentations d'autrefois, du moins pour les gens qui ont la chance d'être assez âgés pour les avoir vus. Et c'est là une scène, cette fois-ci, c'est Hector qui est ici et qui s'entretient avec Hélène qui est là-bas.
C'est bien ce que je supposais. Vous n'aimez pas Paris, Hélène. Vous aimez les hommes.
Je ne les déteste pas. C'est agréable de les frotter contre soi comme de grands savons. On en est toutes pures. Ou de la pierre ponce, si vous préférez. Et alors?
Et alors? Entre ce retour vers la Grèce, qui ne vous déplaît pas, et une catastrophe aussi redoutable que la guerre, vous hésiteriez à choisir.
Vous ne comprenez pas du tout, Hector. Je n'hésite pas à choisir. Ce serait trop facile de dire je fais ceci ou je fais cela pour que ceci ou cela se fasse. Vous avez découvert que je suis faible. Vous en êtes tout joyeux. Un homme qui découvre la faiblesse dans une femme, c'est le chasseur à midi qui découvre une source. Il s'en abreuve. Mais n'allez pourtant pas croire, parce que vous avez convaincu la plus faible des femmes, que vous avez convaincu l'avenir. Ce n'est pas en manœuvrant les enfants que l'on détermine le destin.
Les subtilités et les riens grecs m'échappent.
Il ne s'agit pas de subtilités et de riens. Il s'agit au moins de monstres et de pyramides.
Choisissez-vous de partir, oui ou non?
Ne me brusquez pas. Je choisis les événements comme je choisis les objets et les hommes. Je choisis ceux qui ne sont pas pour moi des ombres. Je choisis ceux que je vois.
Oui, je sais, vous l'avez dit, ceux que vous voyez colorés. Nous allons vous remettre aux Grecs en plein midi, sur un sable aveuglant, entre une mer violette et un mur ocre. Nous serons tous en péplum d'or, à jupe rouge, et entre mon étalon blanc et la jument noire de Priam, mes sœurs en péplum vert vous remettront nues à l'ambassadeur grec, dont je devine au-dessus du casque d'argent le plumet amarante. Vous voyez cela, je pense.
Non, du tout. C'est tout sombre.
Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas?
Me moquer, pourquoi? Allons, partons. Partons, si vous voulez. Allons nous préparer à ma remise au grec. Nous verrons bien.
Vous doutez-vous que vous insultez l'humanité ou est-ce inconscient?
J'insulte quoi?
Vous doutez-vous que votre album de chromos est la dérision du monde? Alors que tous ici, nous nous battons, nous nous sacrifions pour fabriquer une œuvre qui soit à nous. Vous êtes là à feuilleter votre album de gravure de tout près de toute éternité. Qu'avez-vous? À laquelle vous arrêtez-vous avec ces yeux aveugles? À celle, sans doute, où vous êtes à ce même rempart contemplant la bataille. Vous la voyez, la bataille?
Oui.
Et la ville s'effondre ou brûle, n'est-ce pas?
Oui, c'est rouge vif.
Et Paris? Vous voyez le cadavre de Paris traîné derrière un char?
Vous croyez que c'est Paris? Je vois en effet un morceau d'aurore qui roule dans la poussière. Un diamant à sa main étincelle, oui. Je reconnais souvent mal les visages, mais toujours les bijoux, c'est bien sa bague.
Et cette conférence est terminée avec un autre extrait de pièce, cette fois une pièce d'André Roussin, Hélène ou la joie de vivre, qui met en scène une Hélène tout à fait contemporaine.
Nous sommes pas mal d'années plus tard, Hélène est en train de marier sa fille, vous voyez, le ménage va très bien, mais Ménélas voudrait bien que Hélène cesse d'être passionnée d'aventures et de choses où il se passe des tas d'événements, et qu'elle remplace cette joie de vivre dans les aventures par ce qu'il appelle la douceur de vivre ou l'agrément de vivre. Et il y a un dialogue entre les deux, qui est un dialogue qui pourrait se passer dans n'importe quel ménage moderne avec une femme légère, séduisante, mais tout à fait gentille et compréhensive. Et il essaye de l'amener à des sentiments, disons, plus en rapport avec sa situation et, si j'ose dire, son âge. Nous avons donc là maintenant un dialogue entre Ménélas et Hélène.
Et je songeais à cela quand vous êtes entrée, voyez-vous.
À quoi donc?
À nous, Hélène. À notre ménage et, justement, à notre bonheur. Je voudrais que nous partions sur des bases solides d'entente conjugale. Le temps m'emparez-vous.
Vous m'inquiétez, mon ami.
Hélène, j'ai fait sur votre compte nombre de réflexions. Je suis arrivé à cette conclusion que je crois juste. Vous n'avez jamais eu d'amant.
C'est très inattendu, Ménélas.
Vous me comprenez?
Ah, c'est mal.
Qu'est-ce qu'un amant, Hélène? Un dompteur? Un maître? Avez-vous jamais trouvé votre maître? Non. Car en votre présence, les hommes se sont toujours sentis diminués par votre beauté. Du coup, ils ont cessé de vous plaire. Conclusion, vous n'avez, vous non plus, jamais aimé.
Voulez-vous en venir, Ménélas, dans vos divagations sur ma vie sentimentale?
À ceci. Ce qui n'a pas été pour vous ne saurait plus être. Il vient un jour pour chacun de nous où les jeux sont faits. Il ne s'agit plus ce jour-là de songer à de nouveaux départs, mais de considérer plutôt où l'on est arrivé.
Et où suis-je arrivé?
Eh bien, disons, à l'âge où une mère marie sa fille, précisément. Vous êtes sans doute la plus jeune des mères qui marie sa fille.
Mais je l'ai mariée, c'est entendu, alors.
Alors, je pense qu'avec cette certitude dont je vous ai parlé, de ne jamais rencontrer l'homme de vos rêves, le mieux serait désormais de ne plus songer à lui. Autrement dit, à ce que vous appelez la joie de vivre, ou l'amour de la vie, pour vous donner entièrement à ce que j'appellerais la douceur de vivre, ou l'agrément de la vie.
Nous quittons la Fondation Saint-Gerre-Polignac, les participants, les comédiens de cette conférence autour de la belle Hélène, et nous retrouvons Madame Jacqueline de Romilly devant les micros de Canal Académie pour la fin de notre émission en habit vert. Madame Jacqueline de Romilly, quel est votre sentiment personnel par rapport à la belle Hélène ?
Vous savez, je vais vous surprendre beaucoup, je ne l'ai pas connu. Nous n'avons aucun élément, nous n'avons que les textes pour ou contre. Une dame m'a dit à la suite de cette conférence, « Mais pourquoi serait-on contre ?» Vous savez, je suis très vieux jeu. J'ai pas même pas pensé sur le moment, je lui ai dit, cause de la guerre, j'ai même pas pensé à lui répondre que quitter son mari et son enfant pour partir avec un étranger, c'est pas considéré comme très bien.
Eh bien, écoutez, c'est sur ces phrases que notre entretien va se terminer. Un grand merci, Jacqueline de Romilly, d'être venue devant les micros de Canal Académie. Merci beaucoup.
Merci à vous, mais je ne voudrais pas que ma sévérité à l'égard d'Hélène semble une condamnation à l'égard du grec. Merci en tout cas.
Merci.